Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité. Denis Zungrana.
Bonjour et bienvenue à cette édition Actualité politique dans le cadre de l'interdiction des activités des partis politiques. Les autorités donnent un avertissement au CDP et interdisent à l'UPC de tenir une session de son BPN. Mécontente, le parti du Lion vient de saisir la justice. Et puis coup de compte, les premiers responsables plaident pour une autonomie financière de l'institution. Fermeture du marché Sankaria suite à l'incendie, les commerçants lancent un appel pour la relance de leurs affaires le plus tôt possible. Le nord du Mali se retrouve délaissé aux mains des groupes armés et de l'État islamique depuis le départ de Barkhane. Les forces armées maliennes y sont absentes, des faits qui font craindre pour cette partie du pays. On en parle avec notre invité du jour, le professeur Kalilou Sidibé, enseignant-chercheur à l'Université de Bamako. Interview à suivre en fin de journal. L'UPC de Zéphirin Diabré vient de saisir la justice sur la question de la suspension des activités des partis politiques. C'est ce qu'a appris Omega Média à travers un communiqué du parti. Selon ce communiqué, le parti de Zéphirin Diabré a informé le gouvernement de la tenue d'une session de son bureau politique national, mais s'est vu opposer ce qu'il interprète comme une interdiction. Pour quelle raison? Abdoul Fattah Tiemtouré a posé la question au porte-parole du parti, Moussa Zerbo.
Dans le cadre de nos activités statutaires, notre parti a souhaité tenir sa première session du bureau politique national le 18 février à venir, donc le samedi. Par précaution, nous avons adressé une correspondance au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation de la sécurité afin de pouvoir l'informer, comme le dit la loi. C'est une lettre d'information. Donc, le 10 février, on a eu l'accusé de réception qui nous notifiait qu'il y avait une suspension qui était en cours, suspension des partis politiques depuis le 30 septembre, je crois. Et c'est un communiqué numéro 3 qui est ressorti dans la correspondance. Nous avons estimé que ce n'était pas, en tout cas, à partir du moment où la Constitution aussi est rétablie, on ne pouvait pas empêcher un parti politique de se réunir pour la rencontre statutaire qui est inscrit et qui est même condamnable si ces rencontres ne se tiennent pas par la loi. Et nous avons été quand même un peu surpris et c'est pour cela, bon, pour ne pas rester dans l'illégalité. Et en tant que parti républicain, nous avons décidé de saisir les juridictions compétentes en la matière, question de pouvoir être éclairé, avoir une suite par rapport à cela.
C'est le porte-parole de l'UPC et toujours dans le cadre de cette interdiction, le ministère de l'administration territoriale de la décentralisation et de la sécurité a adressé une lettre d'avertissement au Congrès pour la démocratie et le progrès CDP pour non-respect des thèmes du communiqué numéro 3 du 30 septembre 2022 suspendant les activités des partis et formations politiques. Le samedi 28 janvier dernier, j'ai eu le regret de constater que vous avez tenu la 73e session ordinaire du Bureau politique national du CDP, nonobstant le refus d'accorder une suite favorable à votre requête introduite par lettre en date du 23 janvier 2023, explique le ministre de l'administration territoriale, le colonel Boukaré Zungrana, dans sa lettre en date du 31 janvier dernier. Le 30 septembre 2022, au lendemain du coup d'État qui a porté le capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir, les nouvelles autorités avaient annoncé la suspension des activités des partis politiques et celles des OSC. Dans un autre communiqué en date du 4 octobre 2022, le ministère de l'administration territoriale avait également apporté des précisions sur cette mesure de suspension, indiquant qu'elle concerne uniquement les manifestations ou appels à manifestations populaires pouvant entraîner des troubles à l'ordre public susceptibles de saper les efforts communs de renforcement de la cohésion sociale. La Cour des comptes a réuni au cours d'un point de presse des journalistes, c'était hier, pour leur présenter le rapport public 2021-2022, un rapport dans lequel le président de la Cour des comptes explique les audits effectués et les résultats obtenus courant l'année 2021-2022 ainsi que les défis à relever. Le reportage de Kader Konaté et Jean-Baptiste Ramdé.
Après le chef de l'État, le 6 février dernier, c'est au tour des hommes de médias de prendre connaissance du rapport public 2021-2022 de la Cour des comptes. Ce rapport, essentiellement axé sur le contrôle de la gestion des finances publiques, comporte quatre points essentiels. Latin Pouda, président de la Cour des comptes.
Nous avons la première partie qui concerne le contrôle juridictionnel où nous avons le jugement des comptes de session. Là, nous avons parlé des jugements qui ont eu lieu en 2021 sur les comptes de gestion où nous avons jugé 1826 comptes. Et ensuite, nous avons les jugements de faute de gestion. La troisième partie concerne les contrôles non juridictionnels où nous avons déroulé les différents audits et contrôles qui ont eu lieu en 2021 au niveau de la Cour des comptes. Nous avons le contrôle, par exemple, du conseil régional des Cascades, le contrôle des communes de Loubila. Enfin, nous avons l'assistance au Parlement, où nous avons présenté de façon succincte les rapports sur l'exécution de la loi de finances de 2018, 2019 et 2020.
De ce rapport annuel 2021, la Cour des comptes se félicite pour le travail abattu malgré les innombrables difficultés. Elle demande plus de moyens pour veiller à la bonne gestion des finances publiques.
Le bilan est positif et nous dirons que si la Cour a plus de moyens, nous pourrons faire plus. Prenons l'exemple des communes. Il y a combien de communes au Burkina ? Si la Cour doit contrôler une ou deux voire trois communes par an, c'est insignifiant. C'est enfin pareil pour les EPE. Voilà, donc c'est pour dire qu'il faut que la Cour des comptes retrouve la place qui lui est due dans les institutions de ces pays.
Notons cependant que pour des raisons de procédure, le rapport 2021 sur l'audit de conformité de passation, de l'exécution et de règlement des marchés publics liés à la pandémie de Covid-19 n'a pas été présenté dans ce document.
Et nous restons dans le domaine des finances pour parler de civisme fiscal. La délégation spéciale de la commune de Ouagadougou donne l'exemple en s'acquittant de ses taxes de résidence et de véhicules à moteur. Le lancement de cette activité a eu lieu hier. C'était en présence de Momoni Yaro.
Le Burkina vit des moments difficiles de mobilisation des recettes, alors que celles-ci permettent à l'État et aux collectivités d'offrir de meilleures conditions de vie aux populations et surtout de faire face au terrorisme. Cette activité de la délégation spéciale facilite le paiement des impôts des agents de la commune de Ouagadougou et d'avoir une meilleure mobilisation des ressources fiscales. Maurice Konaté est le président.
Cette journée qui consiste à booster la fiscalité a constitué à inviter l'ensemble des citoyens à satisfaire à cette obligation, celle de payer ses impôts et taxes. Nous sommes honorés de voir que la DGI s'est libérée pour venir se mettre à la disposition de la commune de Ouagadougou pour que notre personnel puisse s'acquitter facilement et librement de ses taxes et de ses impôts.
L'acte est bien apprécié par la Direction générale des impôts. Elle estime que ce civisme fiscal contribuera sans doute au développement socio-économique de la commune. Daouda Kirakoya, directeur général des impôts.
Le président de la délégation spéciale a fait très fort parce qu'aujourd'hui c'est la fête de l'amour et il a sonné le rassemblement pour célébrer l'amour de la commune de Ouagadougou et au-delà, l'amour de la patrie qui se traduit par la contribution citoyenne au financement du développement économique et social. On a besoin de beaucoup de services que la mairie doit nous offrir. Et pour offrir ces services, la mairie a besoin de ressources.
En ces temps où les questions budgétaires se posent à tous les niveaux, payeurs et collecteurs invitent tous à s'acquitter de ces taxes et ces impôts.
Et puis je vous en parlais en titre, c'est toujours la tristesse au marché Sankaria à Ouagadougou, plus de deux semaines après l'incendie qui a ravagé plusieurs dizaines de magasins. Radio Omega a fait un tour sur les lieux hier. Les grossistes et détaillants souhaitent une relance de leurs affaires le plus tôt possible. Momoni Tambora pour le reportage.
L'atmosphère commerciale ne sent pas bon ici au marché de Sankaria. Le constat est amer. Il y a rupture de la chaîne commerciale. Les activités marchandes sont au ralenti. Pousseurs de charrettes n'ont presque rien à pousser. Les conducteurs de tricycles pleurent de la morosité des affaires. Même les vendeurs et vendeuses ambulants ont pris un coup dur. Le moral n'y est plus. Ils fuient nos caméras. Tout cela résulte de l'incendie survenu le 29 janvier au marché de Sankariaré. Une chute de la demande alors, à quelques semaines du drame.
À l'intérieur de ces boutiques-là, si vous rentrez pour voir, vous allez trouver que ce sont les patrons et leurs employés qui sont assis. Aucun client n'ose venir. Et les clients aussi, bon, comme ils ont entendu l'information que le marché a pris feu, donc ils n'osent même pas venir. Ils oublient même que nous autres là, et nous on a autre magasin. Ils ne veulent même plus appeler. Bon, ils se disent que tout est fini. Et bon, c'est mieux pour eux, ils vont changer. Et pourtant, si c'est le cas, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Vraiment, ça impacte tellement tout le monde que c'est compliqué.
Des boutiques environnant ce marché peinent à se relever dû à un flux migratoire de certains clients, nous explique Faisal Kabore. C'est le cas chez Moussa Bagaya, commerçant.
Actuellement, le marché est fermé. Ceux qui ont subi des pertes dues aux flammes et ceux qui n'ont pas subi des pertes, on n'arrive plus à faire la différence. Actuellement, c'est la souffrance.
La fermeture du marché risque un important impact, s'inquiètent ces commerçants. Certains grossistes et détaillants souhaitent une relance de leur activité le plus tôt possible.
Le fait que le marché est fermé, si ça prend du temps, les clients vont partir dans d'autres marchés. Et juste après l'ouverture du marché, ces clients ne pourront plus revenir encore dans ce même marché. Donc ça serait vraiment compliqué. Nous, on trouve que la meilleure solution, ce n'est pas de fermer le marché. C'est de laisser, on va continuer de vendre même si c'est un peu, pour garder la clientèle.
Bon, nous voulions à ce que les autorités et les délégués du marché, ils n'ont qu'à essayer de voir la partie qui n'a pas été consumée par le feu. Ils n'ont qu'à essayer de voir, même si c'est cette partie-là, ils n'ont qu'à nous donner l'autorisation. Et nous autres, là, bon. Moi, vraiment, ma zone-là n'a pas été concernée, concernant l'incendie. S'ils peuvent essayer de voir à ce niveau, et nous autres, là, nous, on va essayer ensemble, puisque même avec ceux dont les marchandises ont été brûlées. Ensemble, on peut essayer de collaborer et puis on va essayer de travailler au fait.
Des responsables de structures de commerce ont effectué des séries de visites sur les lieux. Objectif, soutenir les commerçants du marché face aux sinistres engendrés par l'incendie du 29 janvier, occasionnant 70% de pertes. Ces commerçants plaident alors pour un accompagnement et une réouverture rapide du marché.
La revue de presse.
Nos éditorialistes du jour se sont étalés sur divers sujets d'actualité. Si l'Express du Faso revient sur la suspension des activités des partis politiques, le quotidien, lui, s'intéresse à la promotion du secteur industriel et le doyen des quotidiens, l'Observateur Palga, se penche sur la condamnation en Côte d'Ivoire de Guillaume Soro. La revue de presse de ce jour est signée Alenta Ouedraogo.
À la une des quotidiens du jour, on apprend que l'UPC s'engage à saisir la justice suite à l'interdiction par le MATDS de la session statutaire de son bureau politique national, initialement prévue le samedi 18 février. L'Express du Faso se demande d'ailleurs si le pouvoir de la transition est en train de travailler à la dévolution du pouvoir à un camp politique qu'il cajole. Cette question est d'autant plus pertinente quand on sait que le 28 janvier 2023, le Bureau politique national du CDP, Dedy Kwambuyogo, a tenu sa 73e session, pendant que le même communiqué numéro 3 était en vigueur. Et notre éditorialiste de poursuivre que l'un des premiers actes politiques du pouvoir de la transition a été de délivrer à Dedy Kwambuyogo le récépissé corrélé entre l'aile du parti qu'il dirige et celle dite historique. Sans citer les marches des OSC pro-russes ou encore pro-transition. Au regard de ce qui précède, l'Express du Faso rappelle donc aux autorités qu'il serait prudent pour la transition de traiter tous les acteurs politiques, de la société civile et tous les Burkinabés sur un pied d'égalité, afin qu'à son terme, elle ne soit pas accusée d'avoir divisé davantage les Burkinabés au lieu de les réconcilier. Le journal Le Quotidien, pour sa part, s'intéresse à la rencontre entre le groupement professionnel des industriels et le ministre du Développement industriel, du Commerce, de l'Artisanat et des petites et moyennes entreprises. Le journal nous apprend que si le secteur est confronté à la crise sécuritaire, la question de la production, de la transformation sur place et de la consommation des produits locaux est aussi une préoccupation. Pour preuve, des tonnes de tomates, de mangues, d'oignons et bien d'autres produits locaux pourrissent dans les champs ou des magasins, faute de transformation. et même que certains pays viennent se servir pour aller transformer sous le regard désolant des braves producteurs qui ne savent que faire. Alors, si le Burkina Faso a définitivement opté la production et la consommation des produits locaux, il doit se donner les moyens de leur transformation, indique le journal Le Quotidien. Et de poursuivre que le gouvernement doit donc soutenir le secteur de l'industrie du Burkina au risque de voir les industriels et autres investisseurs sombrer dans le découragement et même la résignation, conclut Le Quotidien. Le doyen des quotidiens, l'observateur Palgan, lui, nous envoie en Côte d'Ivoire où l'ancien premier ministre Guillaume Soro a été condamné à vie pour tentative à la sûreté de l'État avec plusieurs de ses collaborateurs qui, eux, écopent de 20 ans. Ensemble, ils sont condamnés à payer solidairement 1 milliard de francs CFA à l'État ivoirien, précise mon confrère. Et si les faits remontent à 2019, Dieu seul sait quand prendra fin l'exil de Guillaume Soro, s'interroge l'observateur Palga. Pour l'heure, les prévenus ont 15 jours pour se pourvoir en cassation et la défense, qui n'a pas eu gain de cause, y tient et promet d'ailleurs de ne point abdiquer jusqu'à ce que le droit soit dit, conclut l'Obs.
L'invité du jour. L'invité du jour.
La situation sécuritaire au nord Mali inquiète depuis le départ de la force française Barkhane, et cela se ressent depuis un certain temps. Ce départ a créé un vide au nord du pays, profitant aujourd'hui à l'État islamique, le groupe terroriste donc. De son côté, le chef du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, Iyad Agali, a refait surface dans la zone. Les mouvements Touareg signataires des accords d'Alger en froid avec Bamako tentent de nouvelles unions de leur côté. Des situations qui ne présagent rien de bon pour le Mali. C'est du moins ce que nous confie notre invité du jour, l'enseignant-chercheur Kalilou Sidibé. Jean au téléphone depuis Bamako. Il commence ici par nous dire si le départ de Barkhane a permis une amélioration dans la lutte contre le terrorisme.
Oui, ça dépend de l'angle où on se situe. Au niveau du gouvernement malien et la majorité de la population malienne, ça a carrément changé positivement et que l'armée commence à monter en puissance. D'un autre côté, on voit que le retrait de Barkhane est plus ou moins perceptible puisque les emprises laissées par Barkhane, notamment dans la zone des trois frontières, Mali, Burkina, Niger, semblent largement contrôlées par les groupes djihadistes, notamment le groupe État islamique.
Vous voulez dire le départ de Barkhane a laissé un vide qui n'a pas encore été comblé?
Oui, personnellement, oui, c'est ce qu'on voit dans le terrain. C'est difficile d'être comblé. Maintenant, on ne sait pas. Est-ce que ça fait partie de la stratégie? Il faut d'abord stabiliser, sécuriser les régions du centre.
Alors, on apprend que Agali a refait surface à Kidal, où il a tenu une rencontre avec certains cadres des groupes armés dans la zone. Donc, doit-on mettre cela au compte du départ de Barkhane également?
Devant la progression et les menaces de plus en plus pressantes de l'État islamique, je pense que le génisme tente de se réorganiser parce que, en fait, le génisme a un avantage sur l'État islamique dans cette zone-là parce que Iyad Agali, il est de la région, il maîtrise bien et donc il est un peu descendu vers la région de Menaka pour avoir plus d'adhésion, plus d'allégeance, pour essayer de fédérer les lignes afin d'avoir une grande force pour combattre l'État islamique. Donc c'est dessiné.
Ici, on apprend qu'il y a les trois mouvements assez importants donc, qui viennent de se donner la main, donc qui ont décidé de fusionner pour créer la coordination des mouvements de l'Azawad. Alors, peut-on dire que c'est une aubaine pour Bamako ou bien doit-on craindre?
En fait, ces trois mouvements étaient déjà les principaux mouvements de la CEMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, parce que avant la mise en place de cette coordination, c'était des mouvements éparpillés et la CEMA essayait de fédérer tous les mouvements pour parvenir à un mouvement unique pour renforcer ses forces par rapport aux futures négociations qui vont entamer avec Bamako. Bon, c'est vrai que si ils se sont coalisés, c'est vrai que ça doit susciter des craintes. Et puis, il faut le dire, on a vu, c'est la semaine dernière, un grand mouvement de rassemblement avec une démonstration de force, avec des centaines de pick-up, avec des armes et des militaires aussi. Un appel à la conscription lancée par la CEMA à l'égard de la jeunesse de la région de Kidal, tout ça. Ça montre qu'il y a une dynamique qui se met en place. Mais moi, je pense bien que c'est par rapport à un repositionnement stratégique dans les futures discussions avec Bamako.
Oui, parlant de discussion avec Bamako, on voit que le groupe signataire des accords d'Alger semble être en froid avec justement les autorités de la transition.
Exactement, oui.
Est-ce que le Mali ne risque pas de se diviser à nouveau?
Oui, en fait, cette crainte est là quand on échange avec certains responsables de la CEMA qui sont à Bamako. On voit qu'il y a le pessimisme qui commence à gagner le rang. Parce qu'ils ont l'impression que le gouvernement malien n'est pas vraiment prêt à s'engager dans l'application concrète de l'accord de paix.
Mais là-dessus, concrètement, quels sont les points qui fâchent réellement dans la mise en œuvre des accords pour que jusqu'à présent, les autorités de Bamako ne puissent pas donc répondre donc à ces différentes recommandations issues de ces accords d'Alger?
Bon, d'après les responsables de la CEMA, le blocage est au niveau du processus d'intégration. Processus d'intégration, on parle de presque 20 à 26 000 à intégrer en deux phases. Et ils trouvent que le processus est très lent, et le processus est au point mort. Il y a le problème de grade qui se pose parce que du côté du Mali, l'intégration ne sera pas comme elle a été dans les précédentes rébellions. On vient, on dit, on était colonel et puis on intègre directement l'armée avec ce grade de colonel. Ça, c'est un point de blocage. Aussi, il y a les changements qui devraient être opérés au niveau politique et institutionnel. Ça, c'est au niveau national. Et également, la CEMA trouve que le gouvernement malien est là et n'est pas vraiment disposé à engager ces réformes politiques et institutionnelles. Et du côté du gouvernement malien, on dit que les conclusions des assises nationales de la refondation ont été claires, qui ont exigé la relecture de l'accord. Donc le gouvernement dit on est dans ce processus, on ne peut pas immédiatement commencer à dire qu'on va mettre en œuvre l'intégralité de l'accord, mais il faut aller progressivement, étape par étape, jusqu'à ce qu'il y ait adoption définitive de la nouvelle constitution. Et comme ça, on peut maintenant essayer de la mise en œuvre des aspects de réforme politique et institutionnelle. Bon, la CEMA n'est pas de cet avis. La CEMA voudrait que l'accord soit immédiatement appliqué.
Merci à vous, Kalilou Sidibé.
Merci beaucoup.
Voilà, restons notre invité, Kalilou Sidibé, enseignant-chercheur malien à l'Université de Bamako. Edwige Tindrebego, assisté par Bernadette Parmogda, donc pour la réalisation, la présentation d'Denis Zungrana. Et nous terminons avec cette citation de Nelson Mandela. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur. Une invite donc voilà, qu'un chacun à pouvoir affronter, on peut dire, la dure réalité de la vie.
Radio Omega, l'info en direct.